Transatlant Queer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard.
Oh boy! Ouais, on avait pas le goût de, on aurait peut-être pas le goût de faire la petite danse qu'il y a dans cette intro avec ce qui s'est passé hier. On va parler d'actualité qui est très riche en Europe. On va donc rejoindre Christophe Gérard à Paris. Bonsoir, bonsoir et bonjour chez nous. Comment vas-tu?
Ça va, on a connu mieux hein, par rapport à ce qui s'est passé hier, mais ça va, on essaie de garder le moral et surtout de faire en sorte d'aller à l'encontre de ce qui se prépare chez nous hein, d'ici quelques semaines.
Oui, alors ça fut riche en actualité hier soir.
Ouais, et puis surtout inattendu, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, c'était journée d'élection pour les européennes, hein. On élisait nos députés européens hier. Alors, on savait, hein, les sondages le prédisaient, que le Rassemblement national, donc le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, arriverait en tête de ces élections. On ne pensait pas que le score allait être aussi surprenant, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste RN, qui est menée par Jordan Bardella, a obtenu 31,5% des voix juste après la liste gouvernementale hein, donc présidentielle Renaissance dirigée par Valérie Hayer, elle a obtenu 14,5%. Donc c'est un véritable camouflet pour Emmanuel Macron qui a décidé de prendre la parole hier soir à 21h pour annoncer qu'il avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées qui auront lieu le 30 et le 7 le 30 juin, le 7 juillet prochain, donc en gros dans 3 semaines pour le premier tour. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez dur parce que ce qui nous attend, c'est vraiment pas quelque chose de très sympathique, et notamment pour les communautés queer, LGBTQIA+, on s'en doute. Hier soir, en fait, la plupart des politiques étaient là pour commenter l'actualité et les résultats. Et très rapidement, il y a eu cette nouvelle de la dissolution qui est arrivée. Donc, beaucoup ont appelé de leur vœu une coalition de façon à aller à l'encontre de ce Rassemblement national et de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant d'intervenir, j'ai appris, alors ça soulage un peu, que la droite s'était mise d'accord pour présenter des candidatures uniques au premier tour. Donc, quand je parle de la gauche, je parle du Parti socialiste, de la France insoumise, des écologistes et du Parti communiste, donc qui ont décidé de mettre en place un nouveau front populaire de façon à lutter contre l'extrême droite.
Alors, quels sont les risques là, de cette situation?
Le risque, il est grand, hein, puisque si le Rassemblement national arrive en tête de ces élections, et surtout s'ils arrivent à avoir une majorité absolue, voire une majorité relative, eh ben, ils vont arriver au gouvernement. Donc on va avoir une cohabitation entre Emmanuel Macron et un gouvernement d'extrême droite. Donc en fait, et cette situation, on l'aura pendant 3 ans, hein, jusqu'aux prochaines élections présidentielles en 2027.
Bon, maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas eu seulement qu'en France là, qu'on a élu des députés ou en fait on peut dire des députés européens d'extrême droite.
Non, il y a quasiment dans tous les pays, en tout cas une grosse majorité des pays européens, on constate une montée de l'extrême droite. C'est le cas notamment en Allemagne, en Autriche, en Italie, également aux Pays-Bas. On peut parler aussi de la Pologne. Donc il y a de nombreux pays dans lesquels l'extrême droite a fait des scores assez importants également. Donc c'est assez préoccupant hein, de manière générale et aussi pour nos communautés. Hein, ces partis-là, on le sait, ne sont pas spécialement LGBTQIA+ friendly. Actuellement, il y a vraiment une recrudescence de l'homophobie et des agressions. On sait que ça ne va pas aller au mieux si l'extrême droite arrive au gouvernement.
À l'origine, quand on a préparé cette chronique, toi et moi, on devait présenter des bonnes nouvelles d'abord, mais on ne pouvait pas passer à côté de ces élections. Mais retournons peut-être à certaines bonnes nouvelles, parce qu'on a besoin d'en entendre.
Ouais, parce que du feel good, ça fait du bien. Hein. Donc, je voulais parler de culture, et c'est vrai que l'actualité sur ce dernier mois, hein, depuis la dernière chronique, a été relativement riche. On est en plein mois des fiertés, hein, donc l'actualité est riche, et les communautés queer sont mises en avant, notamment en ce qui concerne la presse quotidienne régionale, avec notamment les marches des fiertés. Et le 11 mai dernier, bah, c'était le concours Eurovision de la chanson. Et c'est un Nemo qui a gagné ce concours haut la main. Nemo, un artiste, j'allais dire, ah oui, une artiste, hein, puisqu'elle se définit comme non-binaire, suisse, et qui a fait une prestation mais incroyable, mêlant de la pop, du rap et des élans également lyriques, des envolées lyriques, mais vraiment une prestation top, avec une chanson qui s'appelle The Code, une chanson dans laquelle Yael explique que bah, elle se sent nettement mieux depuis qu'elle a brisé les codes. Donc c'est un hymne vraiment à la non-binarité et au questionnement sur le genre qui est assez intéressant. Donc
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme une dimension politique quand même à cette victoire?
tout à fait. Hein. Bah, d'abord, on sait qu'il y a une visibilité énorme hein, puisque le concours est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Il y a aussi une dimension un peu plus locale hein, puisque Nemo, en fait, veut servir de sa victoire pour développer en fait la reconnaissance de la non-binarité en mettant en place, en demandant en tout cas un référendum sur la mise en place d'un genre neutre, ce qui n'existe pas en Suisse actuellement, puisque les questions de non-binarité et de genre de manière générale ne sont pas très bien accueillies en Suisse.
Comme dans plusieurs autres pays. Maintenant, on va continuer l'actualité culturelle et queer. Cette fois, on va parler de cinéma.
Et oui, je vous emmène au Festival de Cannes. Hein. Parmi les films qui ont été récompensés, il y a un film de Jacques Audiard, pardon, qui s'appelle Emilia Pérez, un film qui prend la transidentité comme sujet, hein, puisqu'il raconte en fait comment Rita Castro, une avocate, va aider Manitas, un chef de cartel mexicain, à faire face, enfin, à faire une transition de façon à fuir les autorités locales et surtout en affirmant sa transidentité. Donc dans le rôle titre, il y a une actrice espagnole trans qui s'appelle Carla Sofia Gascón, qui livre une véritable performance, hein, puisqu'elle interprète le personnage avant, pendant et après sa transition. Et donc c'est un film qui a convaincu le jury du festival, hein, puisqu'il a obtenu le prix du jury et également ce qu'on appelle le Cannes Central pour la bande originale. Et par ailleurs, en fait, les quatre actrices du film, hein, qui sont, on va les citer quand même, hein, Zoé Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz et bien sûr, Katia Sofia Gascón ont obtenu un prix d'interprétation féminine en commun. Ce qui fait que ben, Katia Sofia Gascón est la première actrice trans à recevoir cette récompense. Donc, ben, à l'annonce de ce prix, elle a fait un discours mais très fort et très émouvant, dans lequel elle revient et elle évoque les difficultés qu'elle a rencontrées lors de son parcours de transition et la sororité avec ses sœurs trans et surtout. Elle s'attend en fait à recevoir des propos transphobes à la suite de ce prix et ben, ça n'a pas failli. Hein. Donc ben, ce qu'il faut savoir, c'est moi je voudrais vraiment le souligner, c'est parce que cette première fois, elle a un goût de symbole hein, qu'il faut vraiment souligner.
Alors, toute cette actualité a certainement suscité une certaine homophobie sur les réseaux sociaux. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, poser la question, c'était répondre.
Ben oui, et tu viens d'y répondre d'une certaine manière. Alors pour préparer la chronique, en fait, ben je me suis intéressé vraiment à toutes les réactions qu'on peut avoir et je suis allé bien plus loin que je ne le fais habituellement parce que j'avoue que d'habitude, je ne les lis pas toutes. Hein. Là, j'en ai lu beaucoup et j'avoue que j'ai eu vraiment la nausée hein, de tout ce que j'ai lu. Je pense que c'était vraiment nécessaire pour appréhender le fait que ben, les LGBT-phobies prennent une nouvelle tournure. En tout cas, moi, j'ai vu des commentaires que je n'avais pas encore vu jusqu'ici. Donc, c'était intéressant de le voir.
Qu'est-ce que tu peux nous dire justement?
Ouais, alors d'abord, ce qu'il faut souligner, hein, c'est que les questions de genre, qu'il s'agisse de transidentité ou de non-binarité, sont des choses qui passent très mal et qui sont mal perçues par la plupart des gens qui commentent les publications sur les médias. Par exemple, la victoire de Nemo a été accueillie par des commentaires du style Je suis licorne, ascendant, casserole, mais également des gens qui ont insisté sur le fait que notre société allait bien mal. Qui, elle, en parlant de Nemo, était une pervertie et que la non-binarité était du ressort de la psychiatrie. Certains, c'est vraiment important. Et certains pensent que pour gagner, comme ça a été le cas pour que ce soit à Cannes ou pendant le concours Eurovision de la chanson, il faut être queer, soit non-binaire ou trans, et que finalement, le talent, c'est secondaire. Et certains ont même été jusqu'à boycotter, enfin, appeler un boycott de l'émission The Voice, puisque Nemo avait été invité à participer à la finale du concours du fameux télécrochet.
Il y a eu des
Donc, le prix
réactions
d'un.
politiques aussi, hein?
Ouais, et notamment ce qui concerne le prix d'interprétation féminine de Katia Sophia Gascon. En fait, la plupart des commentaires surfent sur une vague d'un pseudo-féminisme qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs hein, les théories qui sont développées dans le livre Transmania dont j'ai parlé. En gros, c'est un homme qui a pris la place d'une femme. Et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Marion Maréchal Le Pen, hein, je vous en avais déjà parlé, puisqu'elle a dit, c'est donc un homme qui reçoit un prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères.
Ah mon Dieu, mais
Donc,
elle perd aucune occasion de se taire, elle, hein?
et non, bah, on était en
En fait,
pleine
non, elle
campagne.
perd donc une autre occasion de se taire, j'aimerais dire.
Voilà.
Ouais.
Ouais, parce, en fait, bah, on était en pleine campagne des élections européennes et c'est d'ailleurs un point sur lequel elle insiste puisqu'elle se déclare être contre l'idéologie LGBT.
Et on la laisse dire sans réagir. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit là, quand elle fait ces déclarations-là.
Si, là, en l'occurrence, il y a six associations de lutte pour les droits en fait, des personnes LGBTQIA+, qui ont porté plainte pour injures transphobes. Et l'actrice, donc Katia Sophia Gascon, a également porté plainte pour outrage sexiste en raison de l'identité de genre. Donc on espère que la justice prenne en fait la juste mesure de ses propos et qu'elle sera enfin condamnée pour ce qu'elle a dit à plusieurs reprises.
Bon, c'est le mois des fiertés, là. Comment cette haine-là, se reproduit encore une fois sur les réseaux sociaux?
Bah, en fait, et c'est sur ça que je voulais rebondir, moi j'ai constaté des choses que je n'avais jamais vues. En gros, il y a énormément de gens qui évoquent en fait leur ras-le-bol de voir toutes les nouvelles concernant nos communautés queer. Et en gros, ce qu'on nous dit, bah, c'est qu'il ne faut pas s'étonner si une telle médiatisation suscite des agressions. Donc c'est super grave. Alors d'autres, de manière très laconique, demandent l'organisation de marches des fiertés hétéros, hein, parce qu'ils craignent une disparition des hétérosexuels hein, dans nos sociétés d'ici quelques années. On parle bien évidemment de wokisme et de l'idéologie LGBT, parce qu'on le sait, en tout cas c'est ce qu'ils décrivent, que le but de cette idéologie, c'est d'inciter les enfants à changer leur orientation sexuelle, ou pire, leur identité de genre. Et d'ailleurs, la transidentité, ça concentre énormément de propos haineux. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires qui invitent la communauté LGBTQIA+ à prendre de la retenue et de la discrétion, hein, en tout cas, en
Retournez
faire
dans vos
preuve.
placards.
C'est ça, hein,
Ouais.
puisque en fait, ils étalent, enfin, on étale des relations qui sont de l'ordre de l'intime et qu'aujourd'hui, finalement, on a les mêmes droits que les autres. Donc, il n'y a aucune raison qu'on manifeste, ou en tout cas qu'on manifeste notre fierté, pour reprendre leurs termes. Et en gros, en fait, ce qu'on nous demande, c'est une invisibilité de nos communautés. Moi, j'ai trouvé ça d'une violence incroyable et insoutenable, d'autant qu'on sait, hein, puisque les chiffres ont été dévoilés par le ministère de l'Intérieur, que les faits anti-LGBTQIA+ ont augmenté en un an de 13% et 19% si on se base sur les agressions et les délits liés en fait, aux agressions donc LGBT contre la communauté LGBTQIA+. Donc, en gros, moi, si j'ai une conclusion à faire, compte tenu de toute cette actualité en France et en Europe, bah, c'est continuons à marcher et à être fiers d'être ce que l'on est et menons plein d'activités et d'actions de façon à ce que nos communautés soient plus visibles que jamais, parce que je pense que c'est nécessaire pour faire évoluer les choses de manière positive. Et moi, je me dis qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche, Denis, et que des émissions comme la tienne sont primordiales, je dirais même d'intérêt public.
Bien, c'est bien gentil. Et Christophe, merci beaucoup d'avoir été là toute cette saison. On se retrouve l'an prochain, à partir de septembre, pour la chronique Transatlant Queer. Puis nous,
Mais avec un
on va se voir cet été.
très bientôt et avec un grand plaisir pour vous retrouver l'an prochain.